Eh bien, on va commencer. Bienvenue à tous et à toutes. Je suis ravi qu'il y ait autant de monde, déjà, ce qui n'était pas forcément gagné à cette époque-là. Donc, le cycle de conférences Penser les primes socialisation, regard croisé, est d'abord organisé par l'Institut français de l'éducation. L'objectif général de la réflexion qu'on mène à l'intérieur de l'Institut français de l'éducation, avec Géraldine Bois qui s'y présente, consiste à cerner les conditions historiques, sociales et psychologiques de production des dispositions et des compétences mentales et comportementales au cours de la petite enfance. C'est l'objectif central. Et le cycle de conférences se fonde notamment sur l'idée d'une nécessaire appropriation et articulation critique de travaux qui s'inscrivent dans une série de disciplines très rarement mises en dialogue: psychologie du développement, psychanalyse, sciences cognitives, histoire de l'éducation, anthropologie de l'éducation et bien sûr sociologie de l'éducation. Alors, nous recevrons successivement cette année un sociologue, Wilfried Ligné, le 27 mars, qui a travaillé sur les intellectuellement précoces, un psychologue du développement, Olivier Houdet, qui travaille beaucoup avec les bébés, ce sera le 24 avril, une neurobiologiste que l'ENS a souvent invitée, qui s'appelle Catherine Vidal. Une sorte d'allié objectif des sciences sociales dans le monde des neurosciences, puisqu'elle ne cesse de faire des interventions sur la plasticité cérébrale et elle insiste sur les mauvais stéréotypes qui circulent dans les travaux d'une partie de ses collègues en neurosciences sur le sexe du cerveau, pour aller vite. Donc elle interviendra le 22 mai. Et enfin, on terminera avec le neuroscientifique Jean-Pierre Changeux, le 6 juin, qui avait écrit un papier en hommage à Pierre Bourdieu sur l'habitus neural, essayant de penser, d'ailleurs, dans l'homme neuronal. Déjà, Changeux avait établi un lien possible avec la sociologie, une sociologie qui s'intéresse à la constitution des dispositions, des habitus. Alors, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Marc Joly, qui est historien, enseignant-chercheur à l'Université de Rouen. Il va nous proposer une réflexion sur le social et le psychique dans l'œuvre de Norbert Elias. Alors, un mot sur Marc Joly avant de lui céder la parole. Il est l'éditeur d'abord d'un récent recueil de textes de Norbert Elias, parmi lesquels compte un inédit mondial sur le concept de société chez Freud. L'ouvrage paru en septembre 2010 aux éditions La Découverte s'intitule Au-delà de Freud, sociologie, psychologie, psychanalyse. Il est aussi l'auteur d'une thèse de doctorat en novembre 2010 à l'École des hautes études en sciences sociales sous la direction de Gérard Noiriel, une thèse qui s'intitulait Devenir Norbert Elias, contribution à l'analyse d'un processus transnational de reconnaissance scientifique, la réception française. C'est une thèse qui paraîtra dans un mois environ chez Fayard. Autour du 14 mars, si j'ai bien noté la dernière date. Alors, Norbert Elias avait coutume de dire que la sociologie travaille sur et travaille implicitement sur des individus adultes. Et il disait souvent que malheureusement, le sociologue faisait un peu trop souvent comme si les acteurs dont il pense, dont il parle, et à propos desquels il pense l'action, étaient des adultes comme s'ils n'avaient jamais été enfants. Voilà ce que dit Norbert Elias. Ce qui n'est pas sans poser problème, puisqu'effectivement, un des implicites de la sociologie, c'est de travailler sur des gens déjà constitués, sur des acteurs déjà constitués, au moins adolescents, et qu'évidemment, travailler sur des enfants, travailler, je dirais même sur des bébés, ça pose problème, évidemment. Ça n'est pas sans poser problème aux méthodes de la sociologie. Faire des entretiens avec des enfants, ça n'est pas simple. Avec des bébés, quand quelqu'un ne parle pas, il est difficile de faire un entretien. Ce sont des évidences et en même temps, voilà, nous sommes obligés de, au moment où nous nous intéressons à cette absence et donc nous essayons de combler le manque, on est obligé de faire le constat que les sociologues sont mal placés actuellement pour traiter de ces questions. Et qu'en revanche, il y a une forte tradition dans la psychanalyse, dans la psychologie du développement, dans la psychologie culturelle, en neurosciences, etc., etc. Alors Norbert Elias était quelqu'un qui avait pour ambition une science de l'homme réunifiée. Et dans sa tête, c'était l'histoire, la sociologie et la psychologie. Alors c'est pour ça aussi qu'on a invité Marc Joly, parce qu'effectivement, avant de rentrer dans des questions de véritablement de prime socialisation, de construction de la personnalité, du bébé ou de l'enfant, etc., il faut se poser des questions aussi de discipline et de la manière dont elles se sont construites, dont elles ont construit leur territoire les unes par rapport aux autres, et notamment ces sciences du psychisme séparées des sciences dites du social ou du collectif. Donc voilà un des problèmes qui va être soulevé, je pense, ce soir par Marc Joly, à qui je donne volontiers la parole pour environ une heure et quart, et puis j'espère des discussions. Je mentionne le fait que c'est enregistré, cette conférence est enregistrée, que les questions seront aussi enregistrées, qu'on espère que ce soit podcastable de manière à ce que ce ne soit pas uniquement le public présent qui bénéficie de l'ensemble de ces conférences. Voilà.
Ben merci. Ben, tout d'abord, ben, je voudrais vous remercier pour cette invitation. Je voudrais aussi remercier Géraldine Bois, qui est un peu la cheville ouvrière de ces conférences et qui a été... C'est très bien occupé de moi depuis que je suis là hier soir. Je vais essayer de ne pas parler plus d'une heure. Et je vais donc parler, c'est l'intitulé que j'avais donné pour cette conférence, du social et du psychique dans l'œuvre de Norbert Elias. Alors évidemment, en préparant cette conférence, je me suis rendu compte... Ok, très bien. C'est bien de me le dire tout de suite, d'emblée. Par contre, il ne faut pas que je sois à plus de 10 cm. Évidemment, en préparant cette conférence, je me suis rendu compte que le sujet était beaucoup plus complexe que ce que je pensais, et que notamment, essayer de réfléchir sur l'usage par Elias des notions de social et de psychique conduit inévitablement à se confronter à des problèmes de traduction. Donc je vais essayer de les aborder de manière souple, et pas trop compliqué pour vous, quoi que ce soit un pinsomme cette conférence, mais c'est inévitable. Et je pense qu'avec les problèmes de traduction, en les abordant de front, il y a moyen peut-être de clarifier ce problème théorique qui est celui de l'articulation des dimensions dites sociales et dites psychiques de l'existence humaine. Peut-être même que les problèmes de traduction sont la meilleure façon de clarifier ces problèmes en décentrant d'une certaine manière le regard. Alors un mot tout d'abord sur Norbert Elias. Bon, alors j'imagine que certains le connaissent au moins un petit peu. Il est né à Breslau, aujourd'hui Wrocław en Pologne, en 1897, et il est mort à Amsterdam en 1990. Alors il est surtout connu en France pour son livre en deux volumes sur le processus de civilisation, traduit sous le titre, pour le premier volume, « La civilisation des mœurs » en 1973, et « La dynamique de l'Occident » en 1975. Il est aussi l'auteur de « La société de cour », dont je vais beaucoup parler ce soir, qui est peut-être son meilleur livre, en tout cas c'est celui qu'il préférait, c'est ce qui ressort de sa correspondance, et qui est une analyse de la manière dont le développement de la configuration centrale de la cour au XVIe et XVIIe siècle a entraîné une modification des normes de sensibilité et de comportement de la noblesse, modification qui se serait ensuite répercutée sur l'ensemble de la société. Alors Norbert Elias, c'est, si l'on peut dire, le prototype du sociologue maudit, longtemps incompris et méconnu, pour ne pas dire méprisé, mais finalement célébré à la fin de sa vie, et aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'il est plutôt gâté par la postérité. Le livre sur le processus de civilisation que j'évoquais, Über den Prozess der Zivilisation, si je me permets de donner son titre en allemand, a été publié en 1939 par une maison d'édition suisse, une maison d'édition qui d'ailleurs a été spécialement créée pour publier des textes d'auteurs juifs allemands exilés, pas seulement juifs d'ailleurs, mais enfin des auteurs allemands exilés, il se trouve que la plupart étaient juifs. Et c'est un livre qu'Elias a écrit, vraiment, il était complètement démuni, à la faveur d'une petite bourse attribuée par une association d'aide aux réfugiés juifs lorsqu'il était à Londres. Et donc c'est un livre qu'il écrit vraiment alors qu'il est complètement isolé. C'est un livre évidemment qui va se vendre qu'à une petite centaine d'exemplaires et qui va évidemment disparaître avec la Deuxième Guerre mondiale et qui ne sera réédité que 30 ans plus tard. Donc c'est, si vous voulez, l'étiquette de sociologue maudit que Norbert Elias a, elle est évidemment indissociable du destin de cet ouvrage, qui aujourd'hui est reconnu comme l'un des ouvrages classiques de la sociologie du XXe siècle, un des plus grands livres de sociologie du XXe siècle. Son livre sur la société de cours, c'est encore pire d'une certaine manière, parce que c'est sa thèse d'habilitation qu'il n'avait pas eu le temps de soutenir quand il était à Francfort, juste avant son départ en 1933. Et cette thèse, il ne l'a publiée, pareil, qu'en 69. C'est-à-dire 33 ans après qu'il ait, 36 ans après qu'il ait fini. Bon, alors, il a probablement repris entre-temps, mais entre le moment où il a quasiment fini sa thèse d'habilitation, c'est-à-dire en 33, et le moment où elle a été publiée pour la première fois, il y a 36 ans. Donc, Elias a cette étiquette de sociologue tardivement reconnue. Alors, c'est toujours une notion qui est difficile à utiliser, parce que c'est très rassurant de parler de reconnaissance tardive, puisqu'il y a cette idée que sa reconnaissance ne pouvait pas ne pas aboutir d'une certaine manière, un jour ou l'autre, tôt ou tard. L'idée aussi que le travail finit toujours par payer et que le talent n'a pas vocation à passer éternellement inaperçu. Le sociopsychanalyste Gérard Mendel, que j'aime beaucoup et qui était proche d'Elias sous certains aspects, a évoqué, parlant d'Elias, je cite, son côté chercheur obstiné, isolé, battu par les vents de l'histoire, reconnu tardivement ce côté chercheur maudit. Alors, cette citation est extraite du dernier livre publié par Gérard Mendel, l'année de sa mort en 2004, Choisir le sens de sa vie. Donc, il a cette image-là, cette étiquette-là, et ça a beaucoup contribué, à partir du moment où il a été connu, ça a beaucoup contribué à son aura, à sa réputation. Alors, pour dire en quelques mots ce dont je vais... Excusez-moi, je suis vraiment désolé de tousser en permanence. Pour dire en quelques mots ce dont je vais essayer de vous parler ce soir, je dirais que Norbert Elias fait partie d'une génération de penseurs qui, dans les années 1920-1930, ont été confrontés au défi, un défi plus ou moins explicite et en tout cas plus ou moins consciemment relevé, au défi, je disais, consistant à articuler la nouvelle conception des structures sociales dégagées par les fondateurs de la sociologie, Durkheim, Weber, Simmel, donc conception reposant sur la mise en évidence de l'effet contraignant des interdépendances, de la différenciation des fonctions sociales, de la force immanente des processus, etc. Donc nouvelle conception des structures sociales, donc articuler une nouvelle conception des structures sociales et la nouvelle conception du psychisme mettant l'accent sur les processus inconscients véhiculés par Freud et ses disciples. Donc Elias fait partie de cette génération de penseurs qui ont été finalement requis d'articuler cette nouvelle conception des structures sociales et cette nouvelle conception des structures psychiques. On peut évoquer plein d'autres noms, je pense à Erich Fromm, on peut évoquer l'école culture et personnalité, etc. Alors, dans un premier temps, je vais essayer de retracer à grands traits la sociogenèse et l'évolution des concepts de psychique et de social. Puis ensuite, je vais rentrer un peu dans l'œuvre d'Elias, essayer de la lire un petit peu à cette aune. Et je vais notamment m'efforcer de mettre en valeur l'originalité de sa méthode génétique et de l'objet empirique qu'il s'est donné, qu'il a choisi, afin de relever le défi d'une synthèse psychosociale ou sociopsychique, peu importe, à savoir l'étude de la société de cour. Alors, pour entrer sans tarder dans le vif du sujet, il semblerait que les concepts de psychisme ou de psychique et de social revêtent tous deux un sens très large et un ou plusieurs sens plus circonscrits. Mis en couple, placés en opposition, ces concepts peuvent désigner deux dimensions différentes des relations humaines. C'est-à-dire que je pense essentiellement et toujours les concepts de psychisme et de social en tant que concepts formant couple. Psychisme peut tout d'abord désigner l'intériorité humaine au sens le plus général. C'est la première occurrence du terme, si vous voulez. En ce sens, le psychisme, c'est l'âme humaine. Ce terme a été introduit tardivement dans la langue française vers la fin du XIXe siècle. Ce terme, dans le dictionnaire de la langue, par exemple, je cite un exemple, dans le dictionnaire de la langue française d'Émile Littré, publié en 1877, psychisme ne figure pas. Par contre, il y a le terme psyché, qui est présenté comme un néologisme qui n'est plus vraiment en usage. Je cite, c'est dit quelquefois pour l'âme. Quant à l'adjectif psychique, c'est ce qui a rapport à l'âme, aux facultés intellectuelles et morales. Puis, au terme d'une évolution que je n'ai pas le temps de retracer, psychisme va gagner un sens plus précis, qui n'est pas sans rapport d'ailleurs avec l'adjectif psychologique. Par exemple, quand on dit de quelqu'un qu'il a des problèmes psychologiques, on sous-entend que ces problèmes ont pour origine des traumatismes dans l'enfance, ou bien qu'ils tiennent aux relations difficiles entretenues avec le père ou la mère, un rapport prolongé au-delà de l'enfance et susceptible de peser encore après la mort des parents. Par psychique ou psychisme, je simplifie, je brosse vraiment une sorte d'évolution sémantique à grands traits, et j'opère des rapprochements qui ne sont pas forcément toujours faits. Par psychique ou psychisme, il faut ainsi entendre l'intériorité humaine, ça c'est indiscutable, mais une intériorité qui doit tout, en quelque sorte, à ce qui se joue dans l'enfance, étant donné les caractéristiques universelles biologiques du développement humain dans sa première phase. Alors avec ces caractéristiques que sont la dépendance, la confrontation à l'énigme de l'autre, l'énigme de l'inconscient sexuel, comme l'énigme de ces mots adultes que l'enfant intériorise comme autant d'anticorps, pour reprendre une métaphore que je trouve très très riche de Serge Leclerc, sur laquelle d'ailleurs je reviendrai peut-être, je ne sais pas. Donc il faut entendre ce qui se joue dans l'enfance, étant donné donc ses caractéristiques universelles biologiques, et étant donné aussi évidemment les caractéristiques singulières, dans un ensemble social déterminé, de la configuration familiale d'origine, d'une histoire, d'un roman familial, puisqu'on parle de roman familial souvent en psychanalyse. Bref, le psychisme, c'est l'intériorité humaine, mais pensée, pensable, à partir d'une structure précise de relation, qui est la structure des relations parents-enfants. Alors, sous cet angle, le psychisme est spécifié par l'inconscient, qui lui-même est le produit de l'intériorisation durant la prime enfance, des mots d'autrui, de l'inconscient sexuel d'autrui, soit autant d'énigmes que l'enfant n'est pas en mesure de comprendre, mais qu'il doit néanmoins traduire. L'inconscient résulte de ce travail de traduction lors des premières étapes biologiquement déterminées du processus de formation de la conscience. En sorte que ce que l'on appelle le refoulement pourrait bien ne pas être autre chose que l'ensemble des résidus d'une conscience balbutiante, d'une conscience impossible, biologiquement immature, alors même que l'enfant doit d'emblée faire face à l'autre adulte. En ce sens aussi, la situation psychanalytique invite à ressaisir tout ce qui n'était pas compréhensible au moment du processus de formation, maturation de la conscience face à l'autre parental, et la règle de la libre association aurait précisément pour raison d'être de permettre au patient d'opérer ce travail de ressaisissement du refoulé, relégué dans une sorte de boîte noire, l'inconscient. C'est sur cette base psychique, cette strate fondatrice du psychisme, si l'on peut dire, et qui constituerait ce qu'il y a de vraiment psychique dans le psychisme, que seront vécues les relations ultérieures, les relations sociales à proprement parler, lesquels prennent place dans le cadre d'une division du travail extrêmement poussée, s'inscrivent dans des espaces de position nantis de leur enjeu propre. Ou du moins, ces relations, on peut dire, sont structurées par ces espaces de position ou sont influencées par eux. Alors là, j'arrive au sens, au sens étroit du mot social. Par opposition à psychique, le social pourrait désigner certains types de relations et pas l'ensemble des relations. L'usage, mis en valeur par la sémantique historique des concepts antonymiques ou des concepts fonctionnant par couple d'opposés, et en fait, il y a énormément de concepts de ce type, et on se rend compte que l'être humain, non seulement dans la vie quotidienne, fait usage en permanence de couples de termes opposés, mais les scientifiques aussi. Alors moi, je ne me prononce pas sur est-ce que c'est bien ou pas, je le constate. Hein. Ce que je dis n'a rien de normatif. Hein. J'essaie d'ordonner les concepts. Donc par opposition, je disais, à psychique, le social pourrait désigner donc seulement certains types de relations. Donc on pourrait faire une distinction qui n'est pas très claire de prime abord et qui en tout cas est sujette à controverse, et ce n'est pas Bernard Lahire qui va me contredire, sur un plan scientifique. L'adjectif substantivé social désignerait donc apparemment une certaine structure relationnelle ou plusieurs structures relationnelles, mais pas toute relation, quelle qu'elle soit. Tandis que le psychisme, ou mieux l'adjectif substantivé psychique, désignerait la vie intérieure du sujet pensée à partir de la structure relationnelle parent-enfant. Donc, je me répète, hein, je suis un peu lourd, mais ça c'est une manière, on va dire, précisément circonscrite d'entendre le couple psychique-social. Mais à l'inverse, si par psychique on entend simplement la vie intérieure individuelle, on s'applique autrement dit à mettre l'accent sur ce qu'il y a d'irréductible chez l'individu considéré pour lui-même, le mot social, pris comme antonyme général, peut renvoyer sur un mode de généralité à tout ce qui concerne les autres. Donc soit le psychique comme équivalent de l'individu saisi isolément, et le social comme signifiant de n'importe quelle relation entre des individus, pourvu simplement qu'il y ait relation. Alors ça, c'est une manière large, si on veut, d'entendre le couple psychique-social. Alors une petite précision en passant, je disais qu'il existe effectivement quantité de couples d'antonymes, et on constate qu'il existe par exemple des couples conceptuels où le social intègre totalement le psychique. Par exemple, l'antonymie social-génétique, ou bien on pourrait remplacer social par culturel, hein, et génétique par inné, et social tout ce qui est acquis. Tout ce qui fait que depuis la naissance, des traits de caractère sont acquis, par opposition aux traits innés. Donc le social, ce serait l'environnement sous tous ses aspects, les relations sous tous leurs aspects. Alors cette définition, évidemment, elle est aussi souple que l'inné est réputé rigide. Alors toute la question est peut-être de savoir si adjoindre, là je fais un petit bond, si adjoindre l'adjectif social aux relations qui se déroulent à l'intérieur de la sphère familiale, opération qui est parfaitement légitime et qui ne saurait être critiquée dans le cadre de l'antonymie sociale innée, ne risque pas de nous faire perdre de vue ce qui fait la spécificité de ces relations. Alors je me contente de poser la question, je vais évidemment y revenir plus tard, c'est une question qui est formulée de manière délibérément provocatrice, et peut-être que j'essaierai d'y répondre. Bon, je ne veux pas être trop long sur ce chapitre, donc je ne vais pas développer sur l'histoire du concept de social, qui évidemment est plus riche que le concept de psychique, qui a une histoire beaucoup plus longue. On va juste retenir que l'adjectif social a acquis un sens extrêmement large, à savoir tout ce qui concerne la société en tant que telle, la vie collective, et un sens plus spécialisé relativement au problème des relations entre les différentes classes ou les différents groupes constitutifs de la société. Donc la question sociale, si vous voulez, c'est par excellence la question, enfin là je dis des banalités, la question des rapports entre les travailleurs et les employeurs. Elle évoque le conflit, elle évoque la lutte, la révolte des miséreux, son traitement appelle des réformes de nature législative, si ce n'est une révolution sociale. Donc ça, c'est des sens qui vont naître milieu du 19e siècle. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est, on en parlait un peu ce matin, c'est que dans ce sens-là, le concept de social s'oppose à d'autres dimensions de la vie publique, de la vie collective, donc le politique ou l'économique. Le social apparaît aussi comme porteur d'un idéal nouveau et d'une solution nouvelle à des problèmes qu'on considère comme des problèmes inédits. Bon, je ne développe pas. Retenons aussi que, sous une forme substantivée, et évidemment avec un accent normatif très fort, le social ne tardera pas à désigner l'ensemble des réalisations et des revendications allant dans le sens d'une amélioration générale des conditions de travail, de vie matérielle ou d'un progrès de la répartition des revenus au bénéfice des plus démunis. Tandis que la sociale symbolisera aux alentours de 1848 la société idéale à atteindre par la Révolution. Je ne développe pas, mais retenons l'existence de ce sens étroit. Alors j'en arrive par là à l'œuvre de Norbert Elias. Donc la question évidemment qu'il faut se poser pour commencer, c'est de savoir de quelle manière Norbert Elias a-t-il relevé le défi d'une articulation des structures sociales et des structures psychiques. Alors pour répondre à cette question, ben il faut tout d'abord faire l'effort de le replacer dans une configuration intellectuelle bien déterminée qui est celle de l'université de Francfort entre 1930 et 1933. On peut dire que c'est vraiment à Francfort, à l'intérieur de l'université de Francfort, dans un espace concurrentiel que je vais un peu définir, que son projet intellectuel a pris forme et qu'il a pu concevoir le projet de résoudre ce problème de l'articulation des structures sociales et des structures psychiques. Alors, donc, j'ai évoqué une configuration concurrentielle. Elle était tout d'abord constituée d'un institut de recherche sociale d'origine marxiste. Et alors ça, c'est la future école de Francfort. Hein. On va dire que c'est le pôle de cette configuration concurrentielle le plus connu, le plus célèbre. Mais on a souvent considéré que Francfort se limitait à ça. Or, la configuration intellectuelle de Francfort de l'époque était beaucoup plus large. Donc, cette configuration était donc d'abord constituée de cet institut de recherche sociale d'origine marxiste et réorganisée par Max Horkheimer pour devenir la plateforme interdisciplinaire. Excusez-moi, ma voix commence vraiment à partir en vrille. J'espère que je vais tenir encore un petit moment. Donc réorganisé par Max Horkheimer, cet institut qui à la base est un institut vraiment marxiste, créé par des marxistes pour défendre la théorie marxiste, réorganisé par Max Horkheimer pour devenir la plateforme interdisciplinaire d'une nouvelle théorie de la société d'inspiration hegelienne, mais nourrie d'enquêtes empiriques. Donc premier pôle, si vous voulez, de cette constellation où Elias était situé entre 1930 et 1933, le moment où il a dû quitter l'Allemagne à l'arrivée au pouvoir des nazis. Cette configuration était très originale parce qu'elle était ensuite constituée d'un institut de psychanalyse. C'est le premier institut de psychanalyse créé dans un cadre universitaire, fréquenté par l'élite de la psychanalyse européenne et qui comptait dans ses rangs des enseignants aussi prometteurs que Erich Fromm, qui s'est fait un nom ensuite aux États-Unis, et quelqu'un d'un peu moins connu, mais qui est l'un des fondateurs, qui a été l'un des fondateurs de l'analyse de groupe, qui s'appelle S.H. Fulks, et qui était un proche ami d'Elias, et avec lequel d'ailleurs Elias a beaucoup collaboré en Angleterre, et on peut dire qu'il l'a vraiment aidé à poser les bases théoriques de l'analyse de groupe. Enfin, cette configuration concurrentielle, quand je dis concurrentielle, c'est qu'ils étaient vraiment tous en rivalité avec cet enjeu théorique qui était de résoudre ce problème de l'articulation du social et du psychique. C'est vraiment l'enjeu qui structurait leur rivalité. Cette configuration concurrentielle accueillait enfin un pôle sociologique, alors purement sociologique, autour de Karl Mannheim et de son principal assistant qui se nommait Norbert Elias. Alors Mannheim aurait voulu qu'Elias choisisse comme sujet d'habilitation pour devenir Privatdozent. Privatdozent, c'est le premier grade de la carrière universitaire en Allemagne. Comme sujet d'habilitation, le libéralisme français du 19e siècle, tout comme lui-même, Mannheim avait travaillé pour devenir Privatdozent sur le conservatisme allemand du 19e siècle. Mais il est intéressant de noter qu'Elias préféra remonter jusqu'au 16e et 17e siècle pour se pencher sur une formation sociale jamais étudiée en tant que telle, enfin c'est ce que lui dit après coup, qui est la société de cour, c'est-à-dire le véritable centre du pouvoir et de la culture de l'époque. Alors de cette manière, je pense qu'on peut dire qu'il a associé l'autonomie de son projet de réorientation théorique et de synthèse théorique à l'autonomie de son objet de recherche. On pourrait dire aussi qu'en étudiant une configuration comme la cour, il s'est efforcé de se doter d'une vue d'ensemble de l'ordre de succession des formations sociales, puisque là, on peut considérer la société de cour comme une sorte de maillon ignoré entre la société féodale et la société bourgeoise industrielle, lui donnant les moyens de penser à nouveau frais le lien intime entre la structure des sociétés et l'économie psychique de leurs membres. Certes, grosso modo, il s'est distancié de tous ceux qui essayaient de prendre à bras le corps ce problème de l'articulation du social et du psychique et qui, grosso modo, travaillaient tous sur la société bourgeoise. Ce qui fait que la problématique était surdéterminée par la problématique de l'articulation sociale psychique était évidemment surdéterminée par la question freudo-marxiste. Donc pour Hegel, c'était une manière de prendre ses distances par rapport à l'imposition de cette problématique. Alors la société de cour, j'en viens à ce livre. Je vais citer Roger Chartier puisqu'il a très bien défini l'objet de ce livre. Alors je vais le citer et puis je vais faire quelques commentaires en passant qui permettront peut-être de comprendre dans quelle mesure la sociologie avec le vocable polysémique de société qu'elle a restructuré, qu'elle a élargi, a modifié l'abord de la réalité humaine, des relations humaines, de l'histoire des groupes humains. Alors Roger Chartier écrit « L'objet du livre est la société de cour au double sens du terme. D'une part, la cour est à considérer comme une société, c'est-à-dire comme une formation sociale où sont définies de manière spécifique les relations existantes entre les sujets sociaux et où les dépendances réciproques qui lient les individus les uns aux autres engendrent des codes et des comportements originaux. » Donc ça, c'est le premier sens de la cour comme société, où on va la comprendre comme un ensemble particulier de relations structurées qui ont un impact sur leurs membres, c'est-à-dire qui vont définir un certain type humain. D'autre part, la société de cour est à entendre au sens de société dotée d'une cour, royale ou princière, et organisée tout entière à partir d'elle. Elle constitue donc une forme particulière de société à traiter à l'égal d'autres grandes formes, telles la société féodale ou la société industrielle. La cour y joue le rôle central puisqu'elle organise l'ensemble des rapports sociaux comme le font les liens vassaliques dans la société féodale ou la production manufacturière dans les sociétés industrielles. Alors ça, c'est un autre sens, si vous voulez, du concept de société. On va voir dans la société un vaste ensemble dominé par un groupe donné ou des organes représentatifs donnés, dont la configuration relationnelle, la structure tout entière. Alors ça, c'est une perception qui est au cœur, finalement, de l'analyse même du changement et de l'évolution. Chartier le dit bien, parce que c'est en tant que les sociétés sont structurées par un organe représentatif donné qu'elles évoluent. Elias dit d'ailleurs à un moment que la société de cour est la dernière grande formation sociale non bourgeoise de l'Occident. Alors si c'est le cas, on pourrait dire que l'on est passé d'une société de cour à une société de champ. On peut dire que ce qui caractérise la société bourgeoise, je fais une petite parenthèse, est une société de champ, c'est-à-dire une société structurée par les champs et par l'État en tant que méta-champ. Ce qui ne se comprend et ce qui ne peut se comprendre parfaitement qu'au regard précisément de la société de cour. Alors cette vision du social, je ferme la parenthèse, mais je pense que ce qui est important de retenir, c'est que la cour, on peut la comprendre comme une société en tant que telle et comme ce qui structure la société dans son ensemble, sachant que la société dans son ensemble est toujours structurée par un organe représentatif particulier qui se détache finalement des autres et qui a pour effet de structurer le reste de la société. Alors, évidemment, il faut le démontrer. Cette vision du social, c'est-à-dire, fondamentalement chez Elias, l'accent mis sur les interdépendances, à la fois du niveau macro et du niveau micro, cet accent mis sur l'accroissement de la différenciation fonctionnelle et sur l'extension des liens d'interdépendance, sur l'idée aussi, je surinterprète peut-être, que les relations humaines au-delà d'un certain seuil sont différenciées tout en étant structurées à partir d'un centre, d'un organe représentatif indissociable d'un certain mode de gouvernement, etc. Cette vision de la structure des relations humaines informe la conception éliassienne du psychisme. Pour Elias, mais je vais évidemment y revenir, le psychisme est fondamentalement lié à la dialectique autocontrainte, contrainte extérieure. La dialectique, pour le dire autrement, autorégulation pulsionnelle, menace exercée par des puissances extérieures. Elias met en relation la différenciation sociale, la différenciation de ce qu'il appelle le tissu social, qui va de pair avec le monopole étatique de la contrainte physique, excusez-moi, avec le fait que ce qu'il appelle l'appareil d'autocontrôle psychique sociogénétique, c'est pas très élégant, ou l'appareil d'autocontrôle psychique d'origine sociale ou socialement générée, je vous épargne l'expression allemande, devient plus différencié, plus général, plus stable. Entre parenthèses, j'ai promis de ne pas aborder trop les problèmes de traduction, mais la traduction française est incorrecte. Mécanisme sociogénétique de l'autocontrôle psychique, ce n'est pas l'appareil d'autocontrôle psychique sociogénétique. Je détaille pas. Elias insiste sur l'avènement d'une nouvelle forme plus stable, plus automatique, d'autocontrôle ou d'autocontrainte, c'est-à-dire d'intériorisation de la contrainte sociale, gesellschaftlich Zwang, de psychisation de la contrainte exercée par autrui, reliée à une nouvelle configuration de relations sociales, structurée par une nouvelle configuration des rapports de pouvoir. Alors je cite encore Elias, à partir du texte allemand, parce que la traduction française est problématique. La stabilité particulière de l'appareillage. Alors là, les citations que je suis en train de faire, elles proviennent du deuxième volume du Berden Prozess der Zivilisation, donc de la dynamique de l'Occident. Je quitte un peu la société de cours, j'y reviendrai après. Je cite Elias. La stabilité particulière de l'appareil d'autocontrainte psychique, qui se manifeste comme un trait déterminant de l'habitus de chaque être humain civilisé, entre guillemets, est très étroitement liée au développement des institutions de monopolisation de la violence physique et à la stabilité croissante des organes sociaux centraux. C'est seulement avec la formation de tels monopoles stables qu'est mis en place un appareillage de façonnement social qui habitue l'individu dès son enfance à une auto-astreinte, on pourrait aussi traduire par auto-éducation, continue et précisément réglée. C'est-à-dire qu'émerge dans l'individu un appareil d'autocontrôle stable qui travaille en grande partie de manière automatique. Alors il est important de remarquer qu'Elias n'oppose pas comme deux ennemis contraintes sociales et pulsions. Il a une vision dynamique presque harmonieuse de leur rapport. C'est ce que l'on ne voit pas si l'on traduit par exemple Trimodellierung par conditionnement des pulsions plutôt que par modelage des pulsions. Dans la traduction française, c'est conditionnement des pulsions. De même, dit Dämpfung der Triebe, ce n'est pas le refoulement, mais l'atténuation, ou plutôt, même si ce n'est pas très joli, l'amortissement des pulsions. Là, Elias se prend un peu ses distances avec le modèle freudien. Alors, autre chose, Elias parle de gesellschaftliche Zwang, il ne parle pas de social Zwang. Alors, je vais pas détailler, mais une question que je pose souvent aux Allemands, qui est celle d'une éventuelle différence entre gesellschaftlich et social. Parce que social, on peut le traduire de deux manières en allemand. Ça... Bon, alors on me dit toujours qu'il n'y en a pas. Alors, j'en suis convaincu aussi. De même, Diesel et die Psyche sont parfaitement interchangeables. On peut utiliser les deux en allemand. Diesel, c'est l'âme, mais ça peut être utilisé vraiment dans un sens scientifique, ce qui n'est pas d'ailleurs le cas, le cas en français. Les premiers psychologues scientifiques, ils ont utilisé l'adjectif psychique plutôt que la notion d'âme pour précisément créer la psychologie scientifique. En Allemagne, ce n'est pas vraiment le cas. Néanmoins, je dirais que chaque auteur a ses habitudes sémantiques et que ces habitudes sont d'autant plus signifiantes sur un plan conceptuel que l'on a à faire à des termes qui se veulent techniques. Donc il me semble aussi que « social » en allemand, plus que « Gesellschaft », d'ailleurs c'est un mot qui est d'origine française, qui a été importé, et évidemment il a été importé, c'est pas par hasard, et c'est évidemment que ça a été connoté, « social » est lié à ce que l'on appelle la question sociale elle-même, historiquement liée au problème des rapports entre la bourgeoisie, les classes laborieuses, bon, tout ça est évident, à la problématique de l'État-providence, bon, on dit « social stat » en allemand, je ne développe pas. Ce qui me semble important de souligner, puisque je suis censé parler des notions de psychique et de social, c'est que dans la société de cour, Elias ne parle pas, parle quasiment jamais de psychisme. Par exemple, c'est le traducteur qui par moment met du psychique là où il n'y en a pas. Par exemple, il traduit Schub ou Schuben, il le traduit par réaction psychique. Schub, Schuben, c'est une poussée, une crise. Bon, c'est vrai que c'est difficile à traduire, mais la notion de psychique n'est pas chez Elias. Et dans la société de cour, il l'utilise quasiment jamais. Le concept qui lui permet le mieux de décrire l'intériorité humaine, la structure de la personnalité humaine, c'est celui d'autocontrainte, d'autocontrôle. Et d'ailleurs, dans la société de cour, il ne parle jamais d'appareil d'autocontrôle, beaucoup moins que dans Hubert d'un procès de civilisation, d'appareil d'autocontrôle psychique. Il parle simplement d'autocontrainte ou d'autocontrôle, Selbstzwang. Alors évidemment, ce concept est indissociable des notions de pudeur, de honte, de sensibilité, de prohibition, d'économie affective, de censure, de civilité des manières, etc. Alors ces notions, en tout cas dans la société de cour, semblent distinguer un groupe social parmi d'autres. Et puis on a l'impression qu'elle se diffuse dans l'ensemble de la société, dans les autres couches sociales. C'est pourquoi, pour Elias, les processus de socialisation sont d'abord des processus, et sont d'abord même toujours des processus de civilisation. Alors par processus de socialisation, j'espère que j'ai retrouvé la page, il entend le conditionnement des jeunes aux normes plus sévères du contrôle de l'émotivité conformément aux vues de la société dominante. C'est comme ça qu'il définit un processus de socialisation dans la société de cour. Alors si je résume un peu l'usage que fait Elias du concept de social, je dirais que l'adjectif social, en allemand « Gesellschaftlich », désigne pour lui, parce que j'ai remarqué qu'il avait une vraie rigueur dans l'usage des concepts, désigne pour lui tout mode de relation, toute forme de coexistence, tout le passé cristallisé d'un ensemble donné. Donc il parle de Gesellschaftliche Traditionen, donc tradition sociale, ou de, alors celle-là je vais l'épargner en allemand, mais de développement social d'ensemble. Alors par contre il semble utiliser l'adjectif social. Alors je ne sais pas si je coupe les poils en quatre, hein. Je vous ai promis que je n'en ferai pas trop dans ce registre-là, donc je vais être très bref. Par contre, il utilise l'adjectif social pour désigner des forces impersonnelles. Par exemple, force sociale, socialen Kraft, ou bien pour désigner l'espace de jeu où agissent les individus. Il parle beaucoup de champ social, socialen Feld. D'ailleurs, entre parenthèses, le traducteur, il fait ce qu'il veut. Tantôt, il élimine la notion de champ social, il ne le traduit pas. Tantôt, il met champ social là où il y a simplement champ, Feld, il fait un peu ce qu'il veut. L'adjectif social est encore privilégié pour qualifier des groupes situés dans un système de rangs et de fonctions contraignants et en rivalité les uns avec les autres, socialen Gruppen, socialen Schichten, donc couches sociales, groupes sociaux. Je voudrais aussi souligner le fait que Elias utilise un concept qui n'est pas vraiment traduit dans la société de cour, qui est celui de figuration. Alors c'est son grand concept, hein. Qui ne veut pas peut-être dire grand-chose, mais pour lui, figuration, c'est les êtres humains interdépendants. Voilà. Mais il n'utilise jamais la notion de figuration avec social. Il ne va jamais dire social figuration. Et c'est un peu problématique parce qu'en français, cette figuration est traduite parfois par formation sociale. Bon, alors je ne développe pas, mais parfois Elias parle spécifiquement de Gesellschaftliche Formation, de formation sociale. C'est toujours dans une visée bien particulière. Donc c'est un petit problème de traduction sur lequel je ne vais évidemment pas m'étendre. Parce que ça n'intéresse que vraiment ceux qui s'intéressent à ces questions-là pointues. Enfin, c'est des problèmes de traduction de base. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème l'usage du terme formation pour traduire figuration. Dans d'autres ouvrages, figuration est traduit par configuration. Bon. Alors, ce qui est remarquable chez Elias, c'est qu'en faisant jouer à fond finalement les différentes dimensions du social. Et il est dans la société de cours, il est quasiment que dans ce registre-là. Alors j'avais une petite citation, je ne sais plus pourquoi je voulais citer un truc. Ouais, non, mais je ne vais pas citer. Ce qui est remarquable, c'est qu'en faisant, je ne sais plus pourquoi, enfin, peu importe, à l'époque où je l'ai écrit, je savais pourquoi, maintenant je ne sais plus, donc je ne vais pas me lancer dans une longue citation. Ce qui est remarquable, je trouve, chez lui, c'est qu'en faisant jouer les différentes dimensions du social, de la société, il a été conduit à proposer, à partir de la dialectique freudienne autocontrainte, contrainte extérieure autocontrainte, une nouvelle manière d'appréhender le psychisme, en tant que force opératrice et produit variable de l'intériorisation d'un schéma configurationnel plus ou moins différencié de régulation des pulsions naturelles. Alors dans cette perspective qu'on pourrait qualifier de socio-psychanalytique, le psychisme, c'est ce qui fait que les contraintes extérieures de régulation des forces pulsionnelles peuvent être internalisées et le sont d'une façon structurellement subjectivante selon un schéma plus ou moins stable, équilibré, continu, etc. Le psychisme, si vous voulez, c'est ce qui fait qu'il y a toujours processus de civilisation d'un être humain lorsqu'il naît, et qu'il y a autant de processus de civilisation qu'il y a de société. Le psychisme, c'est à la fois, si on le comprend dans un sens éliassien, un potentiel biologique et un produit familial, social. Il y a donc quelque chose dans la nature humaine, à la confluence d'une force vitale d'affirmation de soi, d'une organisation structurelle destinée à l'agressivité, là je cite Steven Pinker, de la sexualité pulsionnelle infantile et instinctuelle adulte, pour reprendre la distinction que je trouve très stimulante de Jean Laplanche. Donc il y a toute une série de choses qui rendent nécessaire l'exercice d'une contrainte civilisatrice, j'utilise des guillemets évidemment, ou éducatrice par autrui. En même temps, l'être humain dispose de la capacité innée à intégrer des schémas d'autorégulation, lesquels peuvent être plus ou moins stables, fonctionner d'une manière plus ou moins automatique, etc., etc. Alors la famille dans laquelle on est constitue le cadre d'activation particulier, dans le cadre plus large d'une culture spécifique dont le cadre familial, via le surmoi, peut accentuer ou réduire plus ou moins sur un plan psychogénétique les forces à l'œuvre potentiellement pathogènes, de cette capacité d'apprentissage de l'autorégulation pulsionnelle. Alors cette idée de potentiel d'autorégulation pulsionnelle, c'est vraiment un truc qu'Elias a développé dans son texte sur Freud. Alors je vais conclure cet exposé, ce sera un peu long comme conclusion, mais c'est presque la chose la plus importante que je veux dire ce soir, en montrant que ce qui a peut-être manqué à Elias, c'est justement une pensée développementale stadiste permettant de spécifier les effets propres de la configuration familiale. Mais alors je tiens quand même à dire que cette absence de spécification était la contrepartie inévitable d'une entreprise de clarification synthétique générale et de réorientation processuelle des concepts des sciences humaines et sociales exceptionnellement aboutis, servis par la simplicité d'un style d'écriture dont on se doute bien qu'il fut pour Elias tout simple, tout sauf simple à obtenir. Je crois que c'était vraiment là la marque de son génie propre, mais qui n'allait néanmoins pas sans simplification excessive. Alors pour poser le problème différemment, je dirais que la démarche théorique d'Elias, alors c'est une hypothèse, hein, je ne sais pas ce qu'elle vaut, je dirais que la démarche théorique d'Elias a été conditionnée par le fait d'avoir pris pour objet empirique des sociétés pour lesquelles la nouvelle conception du psychisme diffusée par la psychanalyse ne s'appliquait que malaisément. Des sociétés qui ignoraient, par exemple, la coupure privée-publique. Des sociétés où il n'y a pas à distinguer conceptuellement la socialisation familiale de la socialisation extra-familiale, ou la spécificité des relations humaines à l'intérieur de la famille par rapport à la spécificité des relations humaines à l'intérieur de la famille. Des sociétés où l'on ne repère pas encore de tensions, de décalage de ce type, où la famille et la société sont entremêlées, où les relations à l'intérieur de la famille sont des relations sociales, je caricature un peu, comme les autres. Ou en tout cas, il ne se joue rien de particulier, de particulièrement spécifiable dans la fabrication de la structure de la personnalité humaine. Des sociétés à l'intérieur desquelles on peut dire que le système d'interdépendance familiale n'est pas coupé du système d'interdépendance sociale. Il s'y intègre, il y ouvre. Par exemple, Elias remarque que les rapports entre l'homme et la femme ne trouvent pas, pour la haute noblesse de l'Ancien Régime, leur expression dans le concept de famille, mais dans celui de maison. Il n'y a pas de vie de famille. Cette notion n'est valable que pour la société bourgeoise, de même d'ailleurs que celle de fidélité conjugale et bien d'autres encore. Alors, il note donc dans la société de cour, il note la distance séparant les appartements privés permet de juger de la nature des rapports conjugaux de leurs occupants. Finalement, la disposition des salons et salles de réception reflète leur insertion dans la société, avec des guillemets, de leur époque. Le fait que les locaux sociaux soient situés dans la partie centrale du rez-de-chaussée, partie la plus représentative du bâtiment, qui s'étend sur une plus grande surface que les deux appartements privés réunis, témoigne déjà du rôle primordial que la société, toujours avec des guillemets, tient dans la vie de ces hommes et de ces femmes. Donc là, on a chez Elias l'esquisse d'une analyse d'une société où précisément il n'y a pas de frontière entre la famille et la société, entre le privé et le public. Donc le paradoxe, c'est finalement d'utiliser un schéma freudien pour comprendre ce type de société. Mais il y a une règle récurrente sur laquelle la psychanalyse attire l'attention, et dont on peut dire qu'elle a modifié l'abord du psychisme, et qui en tout cas peut donner une clé d'interprétation générale du psychisme. Cette règle récurrente, cet invariant humain, si on peut s'exprimer ainsi, c'est le jeu de la dialectique autocontrainte, contrainte extérieure, dans le processus de formation de la personnalité humaine. Ce qu'Elias retient fondamentalement de la sociologie, de la tradition sociologique qui s'est cristallisée tout au long du XIXe siècle, c'est l'idée de processus anonyme, impersonnel, c'est la perception d'une sorte de force immanente des processus de développement social. Les formations sociales ne sont pas le produit de la volonté d'individu hors du commun. Ce qu'il retient de la psychanalyse, c'est la dialectique autocontrainte, contrainte extérieure, qu'il pense non pas par rapport à la configuration familiale, là où Freud l'avait observé, et qui n'existe pas vraiment dans les sociétés que lui, Elias, étudie, mais par rapport à la société dans son ensemble. Une société qui, notamment, ne connaît pas, je me répète un peu, la séparation privée-public. Donc, il la pense par rapport à la société dans son ensemble et sur la longue durée de l'évolution de la société. Alors, cette absence chez Elias de spécification de la configuration familiale se comprend donc parfaitement. Néanmoins, elle paraît un peu problématique. Alors, je pense qu'Elias en avait conscience. Par exemple, il a confié à Raymond Aron dans une lettre qu'il lui a envoyée en juillet 1939 qu'il regrettait de ne pas avoir utilisé pour l'écriture de Über den Prozess der Zivilisation la large matière dont il disposait sur l'évolution de la structure de la famille et la question générale des rapports entre les sexes dans les sociétés européennes. Donc, c'est là autant de questions qu'il aurait aimé pouvoir développer. Alors, quand on le lit, le problème, c'est qu'on a un peu l'impression que la première phase de l'histoire qu'il nous raconte ne met aux prises, et là, ça renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure, Bernard Lahire, sur le fait que Elias reproche aux sociologues de travailler comme si, finalement, les adultes n'avaient jamais été des enfants. Mais chez Elias, on a parfois un peu l'impression qu'il nous raconte une histoire qui ne met aux prises que des adultes de rangs différents ou semblables, ou que l'enfance a si peu de spécificité qu'elle ne se dissocie en rien du monde adulte. Alors là, je vais citer un extrait de La civilisation des mœurs, donc du premier volume de Über den Prozess der Zivilisation. Alors, il dit, au début, c'est une traduction que j'ai légèrement modifiée, au début, ce sont les personnes d'un rang social supérieur qui exigent des individus socialement inférieurs, et le cas échéant de leur père, sous une forme ou une autre, un contrôle plus rigoureux des pulsions entraînant certains renoncements relativement ordonnés ou un refoulement de l'affectivité. Ce n'est qu'à une époque relativement tardive quand les couches bourgeoises composées de nombreux individus d'un rang social comparable, qui à côté des anciennes couches dirigeantes font figure de masse humaine, accèdent aux commandes de la société, que la famille se fait l'agent unique ou principal de la répression des pulsions. C'est à partir de ce moment que la dépendance de l'enfant par rapport à ses parents devient une des premières sources d'énergie, et même la plus importante et la plus efficace, de la régulation et de la formation socialement nécessaire de l'affectivité. Alors dans cette citation, la famille semble surgir tout d'un coup dans l'histoire. Et d'ailleurs, il est vrai que le concept de famille, tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire la triade père-mère-enfant, n'existe que depuis le XIXe siècle dans la culture européenne. Auparavant, ce concept était en quelque sorte écartelé entre l'idée de co-résidence, l'ensemble des personnes vivant sous un même toit, y compris la domesticité, et l'idée de parenté ou de lignage. De toute évidence, Elias reprend à Erich Fromm, qui ne cite pas, il a le droit, hein, et qui en un sens était un rival, hein, si on peut voir les choses de manière un peu paranoïaque. Mais bon, je sais que Elias en avait un peu conscience, parce que dans une lettre à Walter Benjamin, il cite explicitement Erich Fromm comme quelqu'un qui est porteur d'une démarche comparable à la sienne et par rapport à laquelle il tient évidemment à se distancer. Il reprend à Fromm la notion de famille comme agent psychique de la société. Alors la famille, sous cet angle, n'est rien d'autre que l'institution ayant pour fonction de transmettre les exigences de la société bourgeoise à l'enfant tout au long de sa croissance. Alors cette idée, Fromm l'avait d'abord exprimée dans une optique marxiste ou marxisante, en particulier dans un article paru dans la revue de l'Institut de recherche sociale en 1932. Puis cette idée, on peut dire, favorisera aux États-Unis la convergence entre une certaine psychanalyse, celle des néo-freudiens, Fromm, Karen Hörner, etc., et le mouvement culture et personnalité. La famille est l'institution par laquelle se transmet une culture spécifique. Alors ce qui est évacué, ce qui n'est même pas considéré, c'est l'idée selon laquelle la rencontre, le croisement entre les tendances biologiques conditionnées de l'être humain et la spécificité de ce qui se joue dans la structure relationnelle enfant-parent propre à la famille nucléaire, en termes de transmission inconsciente de l'inconscient sexuel, de désacralisation du rapport aux ascendants, etc., c'est l'idée qu'un tel croisement particularise, si l'on veut, la socialisation familiale par rapport à la socialisation extra-familiale, qui dans nos sociétés, on pourrait dire nos sociétés de champ, est toujours structurée indirectement ou directement par les champs. Pour Elias, la dépendance matérielle et affective de l'enfant par rapport aux parents paraît être le meilleur moyen de lui inculquer les normes de sensibilité, de comportement de la société dans son ensemble. Alors ailleurs, dans la civilisation des mœurs, il relativise encore plus la famille en la présentant comme la première instance de conditionnement de l'être humain. Les parents, dit-il, ne sont que les premiers agents du conditionnement. En réalité, c'est la société dans sa totalité, c'est le réseau social où évolue le jeune qui, par mille intermédiaires, exerce une pression constante sur lui et le modèle plus ou moins parfaitement à son image. Elias indique encore ailleurs que la société est représentée aujourd'hui, mais pas toujours ni même exclusivement, par les parents. Alors ce problème d'une absence de spécification de la famille est encore plus marqué dans la conclusion de Hubert den Prozess der Zivilisation, c'est-à-dire en français la conclusion de la dynamique de l'Occident. Alors Elias y déploie un raisonnement extrêmement mécanique en identifiant une relation de cause à effet, alors précisément que toute sa pensée processuelle tend à annihiler le type même d'explication causaliste. Donc une relation de cause à effet entre ce qu'il appelle les peurs externes des parents qui découlent de leur situation sociale, social lage, et les peurs internes. Bon, la traduction n'est pas très belle, mais c'est ce qu'il faut dire si on veut respecter la lettre du texte. Donc les peurs internes, les automatismes de peur des enfants durant leur croissance. Alors pour Elias, et là, pour le coup, il redevient, je trouve, très freudien. En étant frommien, il est très freudien, ce qui est un peu un paradoxe. Pour Elias, l'être humain est un être de pulsion. Je souligne en passant qu'il ne parle pas de pulsion d'agressivité, mais c'est tout comme. Il parle, par exemple, de décharge, Ausleben des pulsions, par le spectacle sportif. Je passe un peu à un autre thème. Hein. Il parle de décharge des pulsions par le spectacle sportif, qui serait un trait caractéristique de nos sociétés où l'on ne peut plus donner libre cours à notre agressivité aussi librement qu'avant. Dans le spectacle sportif, on peut se laisser aller à des sentiments coupables, précisément sans ressentir de la culpabilité. Je pense qu'Elias a été très influencé par la notion freudienne de principe de plaisir. Sans citer Freud précisément sur ce plan. Et on pourrait dire que pour lui, alors il esquisse un peu dans La civilisation des mœurs, ou dans La dynamique de l'Occident, enfin dans Über die Prozesse der Zivilisation, et ensuite il va le développer notamment dans un des textes au-delà de Freud. Pour lui, en gros, tout le génie des sociétés, c'est d'offrir aux individus les moyens de donner satisfaction, de toujours donner satisfaction au principe de plaisir. En outre, il précise que c'est en assortissant de menaces des plaisirs considérés comme indésirables que les sociétés transforment l'économie psychique de leurs membres et orientent, si l'on veut, les modalités de satisfaction d'un besoin de plaisir qui, faut-il comprendre, est invariable. Alors, l'idée me paraît très intéressante. Alors pour finir, il peut être utile de se demander ce que Norbert Elias entend par psychologisation. Parce qu'il parle de psychologisierung dans le dernier chapitre de Über den Prozess der Zivilisation. Alors pour Elias, la psychologisation est le résultat d'une sorte d'intériorisation imparfaite des contraintes sociales. Alors j'interprète un peu, des contraintes que pose le rapport à autrui, puisqu'il fait évidemment allusion aux courtisans qui jouent un jeu qu'il répugne à jouer tout en sachant qu'il n'a pas d'autre choix que de le jouer. Je cite, le fait, alors c'est encore une traduction personnelle qui n'est pas forcément très élégante mais qui au moins est correcte, le fait de savoir qu'il s'agit d'une régulation pour des raisons sociales est encore vif. Les tendances dans le sens opposé ne s'estompent pas, du moins en partie, dans la conscience de tous les jours. Les autocontraintes ne constituent pas encore un appareil d'habitude qui travaille presque automatiquement et qui inclut toutes les relations humaines. Je ne cite pas la traduction française. Donc, mais si, je vais la citer, parce que... alors, la traduction française, c'est « L'homme de cour a conscience qu'il se fait violence pour des raisons sociales. Les penchants réprimés sont du moins en partie présents dans son esprit. » Les autocontraintes devenues habitudes n'ont pas encore atteint ce degré d'automatisme qui englobe toutes les relations humaines. Je cite la traduction française par comparaison avec ma traduction pour juste faire ressortir l'idée que la traduction française a vraiment tendance à toujours renforcer l'idée de contrainte, de répression. Hein, puisqu'on parle de penchant réprimé, se fait violence. Et Elias est un peu plus souple, hein, sauf quand il parle de la famille d'ailleurs. On a néanmoins chez Elias l'image un peu caricaturale du bourgeois coincé en toutes circonstances, quand le noble, lui, pour Elias, pourrait se laisser aller à ses sentiments, à une certaine violence, à une certaine liberté de ton, avec ses subordonnés, puisqu'il ne les considère pas comme des égaux, tandis qu'avec ses pairs, il se tiendrait. La caractéristique du schéma d'autorégulation pulsionnelle de l'homme bourgeois serait une sorte d'équilibre général d'équivalence des relations, de tout type de relations. On se comporte exactement de la même manière avec sa femme, avec ses enfants, avec ses collègues, etc. Donc c'est une idée à discuter. Et je dirais qu'elle structure un peu la représentation qu'Elias se fait de l'évolution, de l'articulation des structures sociales et des structures psychiques. Donc pour Elias, si vous voulez, le psychologisme, c'est cette conscience du poids des contraintes sociales, cette conscience de la nécessité de se plier à un certain type de comportement. Donc c'est ce qu'il met vraiment sous le mot psychologisation, c'est cette finesse dans les relations humaines, marquée en particulier par un don d'observation très poussé. il souligne que cette finesse dans les relations humaines n'est possible que pour autant qu'il y a tension entre différents modes de relations. Tension qui se reflète dans le psychisme de l'homme de cour via une sorte de bataille entre le principe de plaisir auquel il aimerait pouvoir succomber et le principe de déplaisir qu'il sait devoir s'imposer à lui s'il se laisse déborder par son principe de plaisir. En sorte que le déplaisir est anticipé et se traduit par une tension intérieure permanente. Voilà, donc là, je parle un peu avec des catégories freudiennes, mais c'est pour bien marquer l'origine des idées d'Elias, en sorte que l'on agit à l'encontre de sa volonté. Voilà, bah, je vais m'arrêter là pour laisser un peu la place, je ne vais pas conclure, pour laisser un peu la place à la discussion. J'espère avoir un peu répondu au thème de cet exposé.
Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Des interrogations? Des propositions de traduction? Oui.
Est-ce qu'il est possible de faire un parallèle avec la perspective de George Herbert Mead, par exemple, dans l'idée où, si j'ai bien compris, il y aurait un processus marqué par l'historicité chez Elias, alors que chez George Herbert Mead, il n'y aurait pas d'historicité. Je ne sais pas si je simplifie la différence, mais comme vous avez dit, par exemple, que la relation familiale n'existait pas dans la société de cour, qu'il n'y aurait donc pas, si j'ai bien compris aussi, pas de psychisme. Enfin, j'exagère peut-être, mais en tout cas, le psychisme étant plutôt de l'ordre de la société bourgeoise, comment est-ce qu'on peut penser ça dans la perspective plutôt de George Herbert Mead? Est-ce qu'on peut penser cette historicité?
Je connais assez mal hein, l'œuvre de Mead. Je l'ai lu. C'est vrai que Mead... reprend un peu le modèle freudien distinguant le moi, le surmoi du ça, pour en faire un modèle dont j'ai pas les en tête l'appellation, mais j'ai ce sentiment aussi que c'est pas historicisé chez Mead.
Alors que chez Elias, c'est très historicisé.
C'est ultra historicisé.
Et, ouais. Et il y a donc une relation, la relation surplombante de la société est très forte.
Ce que j'ai essayé de dire, c'est que Elias, effectivement, c'est une vision historique. Et l'originalité d'Elias, c'est de faire fonctionner le modèle freudien qui apparaît dans un cadre qui est très marqué, qui est celui de la société bourgeoise, de le faire fonctionner pour une société antérieure à la société bourgeoise. Donc c'est ça un peu l'originalité de Norbert Elias. Il toujours relié les structures psychiques à des modèles de relations. C'est-à-dire comment les gens sont reliés les uns aux autres. Je pense que si on voulait ultra simplifier Elias et dynamiser à fond son projet, on pourrait dire que la structure de notre personnalité est toujours reliée en amont et dans ce qui se joue dans l'interaction par la manière dont on est relié aux autres. Par la manière dont on a été relié aux autres antérieurement et par la manière dont on est relié aux autres dans une situation présente. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Elias. Donc du coup, effectivement, il a une vision très dynamique, très simple d'une certaine manière. Et j'ai souvenir que Mead est un schéma assez historique. Je ne sais pas si vous connaissez mieux que moi l'œuvre de Mead. Assez parfois philosophant.
Moi, on m'a proposé de faire une lecture de l'esprit, le soi et la société. Et j'ai eu le plus grand mal à terminer la lecture de l'ouvrage. Je pense que c'est très difficile de. Je pense que c'est effectivement un historique. Et je personnellement, je vois plus d'intérêt à lire Elias que Mead. Mais voilà, ceci dit, il y a des grands défenseurs de Mead, il y a des choses intéressantes chez Mead qui ne sont pas particulièrement... Enfin, je ne vois pas de spécificité voilà, par rapport à d'autres auteurs qui ont été incorporés en sociologie. Mais voilà, je ne suis pas un grand défenseur de Mead. S'il y en a dans la salle, il ne faut pas hésiter.
Ah oui,
parce que...
intéressant, c'est de pointer, c'est surtout votre réflexion sur le psychisme et la relation à la société bourgeoise, qui, enfin, il y a quand même une forte importance du type de société sur le mode de socialisation.
Bien sûr.
Alors que chez Mitt, effectivement, il y a ce type de société, mais ça ne veut pas retenir. Donc c'est marquant, enfin, la pensée des liens, c'est très marquant à ce niveau-là. Et est-ce que, justement, est-ce que la psyché ou le psychisme est propre à un type de société, auquel cas il y aurait un homme caractérisé par la société pour un homme caractérisé par la société bourgeoise qui serait radicalement différent?
Ce qui est sûr, c'est que la notion même de psychisme et la volonté de penser scientifiquement le psychisme est liée à une certaine structure sociale. Ce qui n'empêche pas après de repenser les sociétés passées à partir de ces concepts-là, à partir de cette nouvelle représentation qu'on peut se faire du psychisme. Et finalement, ce qu'a réussi à faire Elias, c'est ça d'une certaine manière. C'est utiliser des outils qui sont liés fondamentalement à la société bourgeoise pour comprendre des sociétés passées, antérieures. Et surtout penser en termes dynamiques, en termes d'évolution. Et je pense que ce qui est central chez Elias, c'est la dialectique autocontrainte, contrainte extérieure, parce que c'est une dialectique qui nous mène très loin, puisqu'elle dépasse finalement le problème d'articulation sociale-psychique en introduisant le biologique. Je veux dire, s'il y a contrainte extérieure, c'est parce qu'il y a nécessité d'une contrainte extérieure. S'il y a autocontrainte, c'est parce qu'il y a un potentiel inné d'acquisition d'un schéma d'autocontrainte. Donc, du coup, il complexifie le problème social-psychique en introduisant dans un schéma très simple, qui est celui autocontrainte, contrainte extérieure, trois pôles, le biologique, le psychique et le social. Et je suis persuadé que c'est ce qui est central chez Elias. C'est le point de départ de la pensée d'Elias, c'est vraiment ce modèle freudien, entre guillemets, autocontrainte, contrainte extérieure. J'en suis convaincu. Et c'est d'ailleurs étonnant qu'il ne cite pas le malaise dans la culture, où Freud, je pense, c'est vraiment le livre où Freud exprime cette idée de la manière la plus simple qui soit. Sauf que l'apport d'Elias par rapport à Freud, c'est de pas seulement dire que la société est une contrainte qui va à l'encontre de l'individu, des besoins propres de l'individu et qui finalement c'est une forme de répression. Il a aussi une vision positive de la société où il considère que l'individu a besoin de la société et ne pourrait pas vivre sans la société. Donc il refuse le schéma un peu critique marxiste, freudien, qui considère que la société est par définition synonyme de répression.
On peut, si je peux me permettre de faire une remarque, il me semble que l'intérêt et la limite de l'IAS, c'est peut-être de poser le problème de la structure de la personnalité à un niveau très très général, à un niveau très macro-historique. Pour le coup, sachant que sa question, c'est de dire qu'il y a une évolution relativement lente, de longue durée, dans la transformation des structures psychiques, avec un poids plus ou moins important. Il dit bien à un moment donné, dans un de ses textes, la question, c'est pas de dire qu'il n'y avait pas d'autocontrôle du tout dans les sociétés les plus traditionnelles, mais c'est le poids relatif de la contrainte extérieure et de l'autocontrôle des pulsions, voilà à peu près ce qu'il dit. C'est ça qui l'intéresse. Donc il s'intéresse à un processus de très très longue durée. Alors du coup, moi j'en vois quand même une limite dans la question du psychisme. Parce que là, vous avez rappelé que Elias fait dépendre le psychisme individuel des relations d'interdépendance dans lesquelles sont inscrits les individus. Et vous avez dit relations d'interdépendance passées comme relations d'interdépendance présentes. Le problème, c'est que globalement...
Oui, j'ai surinterprété le modèle.
Oui, vous avez été très généreux avec Elias, parce que la plupart du temps, justement, le problème d'Elias, c'est de ne pas arriver à poser la question de comment se constitue dans une psychogénèse individuelle, ou une sociogénèse individuelle, comment se constitue le psychisme d'un individu dans le temps, hein. Et c'est-à-dire en commençant par la famille, en continuant par l'école, par les institutions X, Y, etc. Et on n'a pas de modèle Quand il parle d'habitus, on voit évidemment qu'il n'a pas du tout en tête ce que Bourdieu désigne par le terme d'habitus. Il a une conception très très large, encore une fois, de la structuration de la personnalité.
Sauf dans le Mozart, quand même.
Dans le Mozart. Alors voilà, mais il n'a pas de modèle pour nous dire qu'est-ce que c'est que cette matrice. Ah bon, le terme d'habitus chez Bourdieu a pour fonction de désigner précisément la manière dont ça peut s'accumuler, se constituer progressivement, etc. C'est évidemment éminemment discutable, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais il a au moins un outil pour désigner ça. Chez Ilias, à part les quelques passages qu'il a et qui sont intéressants sur l'idée de configuration de valence qui se constitue à l'intérieur de la famille, c'est-à-dire ces pôles d'attraction qui se constituent avec l'ensemble des relations d'interdépendance, évidemment papa, maman, les frères et sœurs, les relations, etc., avec des types d'intérêts qui se constituent très, très tôt, et Ilias dit il y aura une tendance à vouloir retrouver l'ensemble de la configuration. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui disparaît, ça déséquilibre, ça crée des frustrations, etc. Enfin, ça devient là, d'un coup, un modèle un peu plus dynamique de ce que c'est que les effets de la socialisation. Et peut-être que ce qui manque à Ilias, à part dans un texte qui est inclus dans le recueil que je citais tout à l'heure, et où il parle de la socialisation pour la première fois en disant de manière très claire la socialisation est quelque chose qui démarre dans la famille et qui continue jusqu'aux derniers jours de la vie. C'est, je trouve, assez remarquable de le poser de cette manière-là. Mais à part quelques textes, c'est vrai qu'Elias n'a pas posé cette question-là. Donc on est un peu... Moi, je pense qu'il a surtout avancé sur des questions qui concernent des évolutions de très longue durée des structures de la personnalité. On est un petit peu plus en manque, on va dire, lorsqu'on s'interroge en tant que sociologue ou ethnologue ou historien sur la constitution chez des individus donnés de quelque chose comme un patrimoine de disposition, un habitus, appelons-le comme on veut, mais en tout cas, voilà, de ces structures psychiques individuelles.
C'est ce que j'essayais de dire en disant qu'il n'avait pas spécifié la configuration familiale. On peut l'expliquer effectivement par le type de société sur lequel il travaille, où il n'y a pas à le faire. Et du coup, il ne nous donne pas des outils parce qu'aujourd'hui, si on réfléchit en termes de socialisation, on est obligé de prendre en compte cette dimension-là. C'est-à-dire cette espèce de tension qui peut exister, qui est structurante entre guillemets la socialisation familiale et la socialisation extrafamiliale. Je pense que c'est l'élément qui caractérise la socialisation dans la société dans laquelle on vit, dans nos sociétés actuelles. Et lui, il travaille dans des sociétés plus simples, entre guillemets, où ce problème-là ne se pose pas. Il n'a pas à se poser pour lui. Du coup, effectivement, quand il parle de la famille, il est très vague, très très vague. Il reprend l'idée générale de Fromm telle quelle, quasiment, sans beaucoup d'esprit critique. Et il est assez décevant, je trouve, quand il aborde la famille. Mais je pense qu'il le savait, parce qu'il voulait travailler sur la famille et bon, sa carrière aurait été différente. Évidemment, il aurait pu travailler de manière beaucoup plus précise, notamment sur des objets historiques, parce qu'il avait vraiment beaucoup de projets, mais tout est parti, malheureusement, rien n'a été possible à cause de la Deuxième Guerre mondiale et puis de ce qu'a été ensuite sa trajectoire. Ce qui serait intéressant de savoir... ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que après-guerre, il était intégré dans un groupe de psychiatres et de psychothérapeutes, j'en ai un tout petit peu parlé au début, qui réfléchissaient en groupe à l'analyse de groupe. Et bon, il y a des enregistrements qui ont été faits de ces réunions. Et Elias, dès qu'il prenait la parole, c'était toujours pour attirer l'attention sur ce que vous disiez, sur des problèmes de longue durée ou d'évolution générale ou de clarification toujours très générale des concepts. Il avait une posture fondamentale de clarification des concepts. Il se situait toujours à un niveau d'abstraction assez élevé. C'était en gros la mission qu'il s'était donnée, si vous voulez. Alors du coup, effectivement, il ne rentre pas dans le détail des choses. Mais quand il le fait, je trouve qu'il le fait merveilleusement bien. Et le livre que je préfère d'Elias, c'est Logique de l'exclusion. C'est une sorte de micro-sociologie d'une communauté ouvrière, de plusieurs communautés ouvrières dans des quartiers de Leicester en Angleterre. Et là, il articule merveilleusement bien sociologie, psychologie et histoire. Il le fait de manière très simple Et c'est absolument remarquable. Donc quand il fallait le faire, il était capable de le faire merveilleusement bien. Le Mozart, je trouve, donne énormément de pistes très utiles, très claires. Mais sa mission, il la concevait, et au fur et à mesure qu'il vieillira, ça s'accentuera, à un très très haut niveau d'abstraction. Très très haut niveau d'abstraction, jusqu'à se donner comme objectif de penser la spécificité de l'humanité dans le règne vivant. Qui est en gros le dernier grand projet intellectuel qui était le sien.
D'autres questions ?
Oui. Je serais bien, enfin, je voudrais vous revenir sur le concept de balance, justement, parce que le balance n'est pas. Ça paraît. C'est quoi les balances affectives par rapport à. Il est distinct de la libido, mais c'est pas.
Vous voulez répondre à ça ?
C'est vous le conférencier. À vous le
problème. Je suis pas super à l'aise avec le concept de balance parce qu'il est intéressant. En gros, c'est tout ce qui fait qu'un être humain est attiré vers autrui. Bon. Et pour lui, cette notion a pour intérêt de ne pas tout réduire à la libido. Donc, ce qui fait qu'un être humain est attiré par autrui n'est pas forcément sexuel, de dimension sexuelle. Voilà. Bon. Et alors, il réfléchit aussi. En gros, voilà, il dit on a. Je simplifie à fond ce qu'il dit, mais voilà, on a un certain nombre de besoins d'ordre affectif qu'on peut plus ou moins remplir grâce à des relations qu'on a à droite, à gauche, etc. Donc, à un moment donné, on peut avoir une sorte de saturation des valences. Mais il peut arriver qu'une relation prend fin et donc on a une valence qui devient ouverte, donc qui va nous attirer vers d'autres personnes. Et ça aussi, il l'utilise pour... rendre compte de l'impact que peut avoir sur un être humain le décès d'une personne aimée, par exemple. En disant que une telle personne qui peut disparaître dans notre entourage, ça peut avoir pour effet d'entraîner une sorte de réorganisation d'ensemble de nos relations humaines. Parce que la valence qui était fixée sur cette personne-là, de cette valence-là dépendait d'autres relations qui peuvent être complètement redéfinies. Donc voilà. Ça lui permet d'évoquer ce genre de choses-là, donc d'évoquer la dimension affective de l'être humain, etc. Donc, mais ce n'est pas un concept qu'il a énormément travaillé, alors c'est un concept qu'il utilise un peu dans Qu'est-ce que la sociologie et qu'il développe un petit peu, effectivement, dans le texte Sociologie et psychiatrie du recueil Au-delà de Freud. Et donc, c'est très intéressant, je trouve, hein, mais c'est vrai que c'est comme une intuition qu'il a eue en passant, mais qu'il n'a pas réutilisée dans d'autres travaux. Et qu'on repère à un moment donné, parce que qu'est-ce que la sociologie et le texte sociologie et psychiatrie, je sais qu'il les a écrits à peu près au même moment. Donc il a eu cette idée-là, mais ce n'est pas une idée qu'il a travaillée avant et qu'il a travaillée ensuite, si vous voulez. Mais c'est une idée stimulante, hein, je trouve, elle est intéressante.
Moi, je trouve que c'est parfaitement résumé. Mais l'intérêt, on pourrait le dire en des termes, alors je détourne volontairement, hein. C'est pas Elias, mais c'est ce qu'on peut en faire aujourd'hui. Il me semble que l'intuition qu'il met en quelques pages dans les deux textes, moi je connais pas d'autres textes d'Elias, effectivement, il parle de ça, permet de conjuguer une forme d'interactionnisme avec une forme de dispositionnalisme, qui généralement ne sont pas toujours compatibles. C'est-à-dire que les gens ne vont pas penser en même temps les dispositions qui poussent les gens à aller chercher un certain nombre de choses, parce qu'ils ont intériorisé un certain nombre d'envies, d'intérêts, etc. Et ça s'articule sur l'idée de configuration de relations d'interdépendance, et je dirais même avec l'idée d'interaction avec des personnes précises. Bon. Quand il prend l'exemple du décès du conjoint, et il dit, voilà ce que c'est perdre un conjoint, on pourrait... C'est une analyse qui n'est pas très loin de celle de Pascal dans les pensées. Hein. C'est l'idée, on perd quelqu'un, on est très triste parce qu'on a perdu une partie de soi, de ce qu'on pouvait faire avec cette personne, de ce qu'on pouvait développer de soi avec cette personne. Donc moi, je pense que c'est très proche, hein, entre Pascal et Elias. Donc là, je pense que chez Elias, pour une fois, il y a la volonté de penser quelque chose comme une articulation entre des dispositions. Et il précise bien, c'est aussi, ça a été rappelé par Marc Joly, que Contrairement à ce que ne cesse de dire la psychanalyse, en tout cas de son temps, et bon, il n'y a pas qu'un seul, une seule type de enfin, il n'y a pas qu'un seul type de désir, il n'y a pas que la libido, il n'y a pas, bon, etc. Il a un modèle vraiment pluri, voilà, il ouvre la possibilité, enfin, tous les intérêts, il y a des intérêts esthétiques, religieux, culturels, moraux, etc. Enfin, bon, voilà. Il ouvre, et si chez l'enfant, on ouvre la possibilité d'une relation sur un plan très très singulier. Je pense que l'exemple d'ailleurs de Mozart est très intéressant, parce que c'est ouvrir cette relation-là chez un enfant très très précocement. Bah, ça crée effectivement un besoin qui est extrêmement fort. Voilà, bon. Donc moi je pense qu'effectivement c'est une intuition intéressante. Maintenant, quand on poursuit ce que j'ai essayé de faire assez récemment, la recherche dans des travaux, puisqu'il a emprunté la notion de valence à des psychologues, on est un peu déçu. On n'arrive pas à trouver, en tout cas pour le moment, je n'ai pas trouvé les textes qui me permettent de poursuivre une réflexion dans le sens de Norbert Elias. Voilà. Mais c'est pas fini.
J'ai quand même tendance à penser qu'il relativisait un peu trop la sexualité. Et d'ailleurs... D'ailleurs, ça se voit dans sa vie. C'est quelqu'un dans la sexualité avait très peu de place dans sa vie, et c'est pas un hasard si dans sa théorie il la relativise aussi. Voilà.
Je dirais qu'il était bien placé pour le faire, mais il avait raison de le faire, parce que la psychanalyse est, enfin, les psychanalystes sont trop obsédés et on va dire qu'Elias rétablit un peu avec son problème inverse de. Très peu de relations sexuelles connues chez les Norbert Elias, dans la vie de Norbert Elias. Nous en parlions encore ce matin, dans un cadre tout à fait académique. Bon, ça lui permet de relativiser, de dire les gens peuvent vivre avec des relations affectives, oui, à autrui, avec des relations totalement sublimées, esthétiques, scientifiques, etc. Et alors ? Donc je pense que ça va plutôt aider à relativiser une chose qui est un peu trop envahissante chez certains psychanalystes, me semble-t-il. Mais faudrait pas que vous en déduisiez une proximité personnelle avec Norbert Elias.
Sur ce plan, tout du moins.
On essaye de faire de la science. Hein. Oui, il y a une question.
Non, c'est quelque chose qu'il a vraiment évité, on va dire, de faire. De déplacer des concepts valables pour le champ psychanalytique à la société. C'est quelque chose qu'il a pas fait. Je réfléchis si... Non, non, il a pas fait. Il a pas fait.
Oui, c'est vraiment spécifiquement freudien.
Enfin, c'est la manière freudienne de penser la société.
Je pense qu'il pouvait avoir... l'envie de mener des recherches sur les conditions sociales de fabrication d'une névrose. Ça, oui. Et on en trouve des traces, y compris des structures paranoïaques chez Mozart, il me semble.
Ouais.
Donc il serait plutôt... Si on pense au projet de recherche... Enfin, c'était un programme de recherche qu'il avait conçu à un moment... Je pars sous le contrôle de Marc Joly, parce qu'il connaît mieux cette histoire que moi, mais... Il a imaginé pouvoir monter un institut où des psychanalystes pouvaient des psychothérapeutes, etc., pouvaient travailler avec des sociologues, avec différents chercheurs en sciences sociales, etc. Et il avait fait la liste, des problèmes, des enquêtes qu'on pouvait mener, etc. Et c'est assez étonnant de modernité pour nous, sociologues, aujourd'hui, quand on lit ça, qu'on découvre ça, parce que, par exemple, il avait l'idée de faire une sociologie de la ménopause. Une sociologie de problèmes de santé qui sont classiquement laissés aux médecins ou à des psychologues, etc. Et il avait quand même cette ambition-là, me semble-t-il. Voilà. Mais il n'a pas laissé, de texte développé sur ces questions.
Non, pas ma connaissance. Non.
D'autres questions ? Non ? Alors on va remercier Marc Joly qui avait une voix qui, depuis, il est arrivé hier soir et sa voix part progressivement. Donc je le remercie d'autant plus d'avoir pu faire cette conférence aujourd'hui. Merci à vous.
Merci. Merci, merci.
Et merci au public. Donc je vous rappelle qu'il y aura une conférence en mars. Et si j'étais très bon, je vous donnerais la date. Et je suis en train de l'oublier.
Vous l'avez donné tout à l'heure.
Le 27 mars. Voilà, le 27 mars, c'est toujours à l'Institut français d'éducation. Merci à vous.